ça compte avec Éric Auziel.
Ça va partout dans les propositions de transactions pour acquérir Elias Pettersson. On n'est pas en train de partir des rumeurs. Je veux juste dire, s'il est sur le bloc des transactions, qu'est-ce que ça coûterait aller le chercher, par exemple? Des gens qui disent Caulfield, un choix de première ronde. Il y en a qui disent une Tylenol et une claque sur la gueule. Ça fait que ça va partout en ce moment. Éric Auziel, comment vas-tu?
Ben, ça va beaucoup mieux que Team Canada.
Oui, hein?
Oui.
C'est...
Ouais. On a la réponse. Salut Greg, salut Olivier, ça va bien?
Moi aussi, ça va mieux que Team Canada, mais ça, écoute, ça veut pas dire que ça va nécessairement très, très bien.
Non, mais écoute, comment ça, ça va pas bien? Ça va pas bien?
Non, moi, ça va très bien, mais dire que ça va mieux que Team Canada, c'est comme dire ça va pas 1 sur 10.
Okay, oui, non, je sais, mais en même temps, ça répond à notre question qu'on avait avec Olivier il y a quelques jours quand il était inquiet par rapport à notre performance ou peu de performance contre la Lettonie. C'était pas une grande édition cette année.
Non, mais tu sais, je le rappelle, là, au début du tournoi, on a parlé à Snake, on a parlé à Martin Thériault. On a-tu parlé à Snake? Oui, on a parlé à Snake, on a parlé à Martin Thériault. Snake a critiqué beaucoup de choix dans cette équipe-là, ou les pas de choix qu'on a fait, hein, si je dis ça de même. Mais somme toute, beaucoup de gens disent, écoute, on a une formation sur papier pour gagner l'or. On est capable d'aller la chercher.
Ce qu'on voit, c'est que l'écart se rétrécit. Il y a beaucoup de bons programmes, et puis c'est pas garanti qu'à chaque année, le Canada va faire de la carré d'ars. Et puis, tu sais, individuellement, ces joueurs-là vont être corrects. Les joueurs qui doivent jouer dans la Ligue nationale vont jouer dans la Ligue nationale. Les joueurs qui ne devaient pas ou qui ne pourront pas, ils joueront pas. Ça changera rien à la carrière de ces joueurs-là individuellement. Collectivement, c'est une équipe qui a attendu trop tard pour ouvrir la machine en troisième période. Il était trop tard. Puis tu regardes le talent dans les autres équipes. Je regardais les autres matchs, là. Il y a du talent partout, là. Alors, et beaucoup de nos bons joueurs ne sont pas là parce qu'ils sont déjà dans une équipe de la Ligue nationale.
Oui, c'est sûr, mais en même temps, ça va toujours être comme ça, Éric.
Ouais, et c'est ça.
Avec le talent qu'on a au Canada, je pense qu'il y a une complaisance présentement. On en parle depuis le début de l'ouverture de l'émission, c'est le sujet du jour. Là. Il y a une complaisance. Ça fait deux fois qu'on se fait éliminer en quart de finale. Et, tu sais, je veux dire, par des pays, on a perdu contre la Lettonie. Mon respect, on a rencontré Artis à Bols, on s'est envoyé plusieurs courriels depuis, et c'est tout un coach. Je veux dire, les kids, ils ont battu le Canada.
Oui, mais
la lettre,
Greg,
tu comprends ce que je veux dire?
Je veux juste qu'on prenne un peu de recul. Admettons, là on est dans l'hypothèse, les Suédois gagnent la médaille d'or. Quel est le résultat contre la Lettonie? 3-2.
Bon, ça, c'est un excellent bon point. Mais quand même, le Canada, on s'entend sur papier. Mettons qu'on fait les choses correctement, là, du haut en bas. Là. Tu mets le Canada sur la glace, même si t'as pas Benson, Celebrini, Bédard, t'es supposé aller chercher une médaille.
Mais non, ça marche. C'est plus ça. C'est plus ça pour moi. Puis là, je veux qu'on me comprenne, là. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que je dénigre pas le programme canadien. J'essaie d'amener l'autre point de vue que les autres programmes ont haussé leur niveau. Ça joue au hockey dans de plusieurs pays. Il y a des bons athlètes qui se dirigent vers le hockey à cause des athlètes actuels qui inspirent les jeunes. Puis les autres se sont ajustés. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on veut pas d'un sport où c'est toujours deux ou trois pays qui dominent. On veut un sport où c'est imprévisible. Tu dis, bon, parce que je rappelle, là, c'est pas la Ligue nationale de hockey où tu sais que à chaque année, tu as 19 ou 20 gars des 23 qui reviennent, donc tu as une bonne évaluation. Là, c'est presque à chaque année où la majorité des joueurs sont nouveaux. Souvent, on change d'instructeur. Alors, regarde, il y a une année où Dominique Ducharme et Joël Bouchard ont perdu en finale en tir de barrage. On les a ramenés l'année d'après, ils ont gagné la médaille d'or. Tu comprends? Donc, c'est les mêmes gars qui dirigeaient ces éditions-là. Puis, on les a beaucoup critiqués quand ils ont perdu, parce qu'ils devaient gagner. Ils n'ont pas gagné, l'année d'après, ils ont gagné. Fait que ce que j'essaie d'amener, c'est il faut donner crédit aux autres programmes aussi.
Et absolument, c'est ce que je fais. Je me suis peut-être mal exprimé dans mon début de conversation avec toi. On rend crédit aux autres programmes, absolument. Mais le Canada, en ayant sa mentalité du « Ouais, mais on a toujours fait ça de même, nous autres. » On est le Canada, puis on est la nation de hockey. Le hockey, c'est nous autres. Ben, on se fait rattraper par les autres pays, et tant mieux pour eux autres. C'est beau à voir l'internationalisation du hockey. Cette victoire-là, la Lettonie, tellement heureux, puis en plus, sont allés battre l'Allemagne par la suite, ce qui est encore plus important pour eux autres. C'est une belle histoire. J'enlève pas de crédit, tout comme toi, aux autres délégations. Je me dis, le Canada, à un moment donné, va devoir se réveiller puis dire, écoute, notre développement... Si on veut continuer d'être la nation de hockey que nous avons été et que nous sommes, on doit changer les choses, faire les choses différemment un peu, s'ajuster à la compétition internationale maintenant qui ont pris exemple sur nous autres, puis à un moment donné, on fait le contraire de ce qu'on fait, ou tu sais, complètement différemment. Martin Leclerc en a parlé tantôt, en utilisant la science notamment, en travaillant à un très jeune âge avec ces jeunes joueurs-là. Il y a tellement de jeunes qui jouent au hockey ici. Il y en a tellement. On a un bassin incroyable, mais c'est pas parce qu'on a un bassin incroyable qu'il faut pas l'entretenir puis le prendre pour acquis.
Moi, je te dirais que le plus grand ajustement que je verrais, ayant été sur le terrain, pas avec des équipes canadiennes puis des équipes Québec, mais étant sur le terrain jusqu'à tout récemment, là où je pense que le hockey doit faire le plus grand ajustement, Greg, c'est qu'on les spécialise trop rapidement. Et on ne développe pas assez l'athlète, le côté athlétique. Et pourtant, c'est dans le programme de chaque fédération sportive, le développement à long terme de l'athlète. Et on les met sur patin à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et déjà, à 8 ans, ils sont spécialistes, là. Ils ne font que du hockey. Donc, ils n'ont pas le côté athlétique. Développé autant que dans d'autres sports, que dans d'autres programmes.
Hockey d'hiver, hockey d'été, hockey de printemps, power skating, power handling, power ici, c'est ça, steering.
Pour un Connor Bedard, puis un Connor McDavid, puis pour un Sidney Crosby, ça va donner d'excellents résultats. Mais on se perd de bons athlètes, de bons joueurs, puis on perd beaucoup à moyen et long terme d'avoir un meilleur potentiel aux joueurs de hockey si on lui permettait de se diversifier du côté athlétique. Fait que, tu sais, puis ça, là, avec des si, là, je le dis tout le temps, on va à Paris. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on ajuste. Principalement Hockey Québec, parce que je pense qu'on spécialise encore plus au Québec, parce que les jeunes ontariens jouent au hockey l'hiver et jouent à la crosse l'été. Mais au Québec, on ne fait que du hockey 12 mois par année. Moi, ça serait l'ajustement que j'aimerais qu'on essaye de faire pendant quelques années, de dire, regarde, sais-tu quoi, là? On va leur en donner beaucoup, mais on va diversifier au niveau athlétique et pas juste du hockey.
On s'obstinera pas du tout là-dessus. Tu connais mon opinion sur le sujet. Et de plus en plus de pays, de plus en plus de différentes délégations sportives disent à leurs joueurs, il y a même des coachs de hockey, des préparateurs, va faire d'autres choses, va jouer un autre... Je veux dire, c'est quoi l'entrevue que j'écoutais? C'est Shane Pinto qui disait, moi j'ai joué au soccer, j'ai joué à d'autres joueurs, ça m'a permis, et de Gronk également. Gronk a joué au baseball, il a joué au basketball, il a joué, ça m'a tellement amené autre chose. Je pense qu'il a joué au soccer également, autre chose que uniquement mon sport. Puis à un moment donné, j'ai fait un choix à l'adolescence que là, j'avais plus le choix si je voulais poursuivre. Il fallait que je continue de jouer au football, c'est ce que j'ai fait. Donc, les grands sportifs, c'est une bonne idée d'exposer des athlètes à plusieurs différents sports à un jeune âge. Tout à fait d'accord avec toi.
Le problème, ce sont les dirigeants qui ne veulent pas partager la tarte monétaire. Ils veulent la garder. Ça, là, ça, c'est un gros problème qu'il va falloir qu'on dénonce, qu'il faut qu'on dénonce. Parce qu'ils ne veulent pas partager. Parce qu'il y a de l'argent, tu comprends? Et c'est au détriment du développement à long terme de l'athlète.
Je remercie Jay sur le messagerie texte, qui est peut-être le seul qui a noté que j'avais réussi à plugger Power Steering dans notre phrase. Il dit « Parle la toune! » Aïe, aïe, aïe. Là, Éric, il nous reste... on est parti comme on le fait à chaque jour. D'ailleurs, on reprendra ça demain. On passe tout le temps sur des discussions partout. Là, je te laisse le choix. T'avais un sujet football, un sujet canadien, et t'avais un sujet aussi sur le quart de siècle au complet. Je te laisse choisir où est-ce que tu vas aller, mon cher ami.
Écoute, je te dirais que je vais y aller avec le quart de siècle parce que ça va peut-être faire réagir toi et Olivier. Tu sais, on est arrivé là les 25 premières années parce que j'ai... Pour les gens qui voudraient dire, ben non, on est en 2025, il reste une année. Non, la 2000, c'est l'an 1, là. Fait qu'on a fait un quart de siècle, puis je me faisais un petit bilan, puis je me disais, il y a tellement, quels sont les athlètes qui ont eu un impact, là. Puis vraiment, en quelques minutes, je peux pas nommer tous les athlètes, là, mais je vais te donner, moi, c'est ma liste à moi, avec beaucoup d'humilité, qui n'est pas une liste scientifique, qui n'est pas la liste ultime. C'est ma liste pour certaines raisons. Puis il y a des très bons athlètes que je nommerai pas. Là, tu sais, si on regarde le basketball, c'est sûr que LeBron James devrait être en haut de la liste. Mais pour moi, en haut de la liste, c'est Steph Curry. Puis je t'explique pourquoi. À cause de cette nouvelle tendance depuis qu'il est arrivé principalement de 3 points. Mais en même temps que Steph Curry a popularisé le 3 points, d'ailleurs, hier, c'est ironique, hier, il est 8-8 de la ligne de 3 points. Il est à 1 du record. Mais il est le premier joueur qui a eu 8-8 du 3 points, mais avec 10 passes directes. Donc, c'est un joueur fabuleux qui est peut-être pas meilleur que LeBron, mais qui a le même nombre de championnats, 4. Mais cette popularité du 3 points, en même temps, fait en sorte que plusieurs pointent le 3 points pour le déclin au niveau des codes d'écoute. C'est un gros problème. La NBA est en train de se demander qu'est-ce qui se passe et on est en train de remettre en question le fameux 3 points qu'on ne changera pas, mais on se dit, est-ce qu'on doit repousser la ligne? Fait que ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il a eu un impact clairement dans son sport parce que maintenant, si tu n'as pas des joueurs qui sont excellents aux 3 points, tu ne peux pas aspirer à gagner un championnat. Mais en même temps, il semble que les spectateurs télévisuels délaissent de la NBA, puis c'est une des raisons. L'autre, c'est Tiger. Tiger Woods, là, on le sait, ça a commencé en 97, mais au 21e siècle, là, il était tellement important parce que son charisme, parce que sa présence tous les dimanches en rouge a fait en sorte que les codes d'écoute ont explosé. Il a eu un impact mondial. Les athlètes, les golfeurs s'entraînent de façon différente maintenant, ce qui ne se faisait pas avant Tiger. Mais maintenant que Tiger n'est plus là, c'est la grande noirceur. C'est la chicane qui est pognée entre PGA et LIV. Les gens arrêtent de regarder le golf le dimanche. Scotty Scheffler est un merveilleux golfeur. Mais il n'y a pas le charisme de Tiger.
Non, il y a ça, même Max, moi, Lalonde, Max Lalonde, qui est notre grand expert de golf ici, il dit, même affaire que toi, il a dit, Scotty Scheffler, plate comme la pluie. C'est exactement ça.
Tout un golfeur. Tiger, tu sais, quand je te parle là, des athlètes qui ont eu un impact, là, c'est un impact mondial, et qui ont innové, qui ont fait en sorte, tu sais, je pourrais te nommer Michael Kingsbury, mais je ne le nomme pas parce que ça n'a pas eu l'impact mondial dans un sport qui est moins médiatisé, mais ça n'enlève rien absolument à ce qu'il a réussi à faire au niveau de sa carrière. Tu sais, les deux autres que je veux te nommer, c'est Usain Bolt, parce que grâce à lui, maintenant, il y a de l'argent dans l'athlétisme, beaucoup plus. Il y a la fameuse Ligue des Diamond League, où les athlètes sont bien payés. Maintenant, on fait des séries sur Netflix par rapport à l'athlétisme. Tout ça est issu de Usain Bolt. Puis Michael Phelps. Tu sais, c'est des gars qui n'ont pas fait ça sur une Olympiade. Là, je te parle de Michael Phelps. Léon Marchand a été extraordinaire en 2024. Michael Phelps le fait sur 4 et 5 Olympiades. Et il a aussi mis de l'avant les défis santé mentale. Donc, ce sont des athlètes qui ont eu vraiment un impact dans le premier quart de siècle. Je pourrais te nommer aussi Serena Williams. Elle n'a pas battu le record des victoires du Grand Chelem. Mais Serena est unique dans le tennis féminin parce que c'est la seule qui a eu de la durabilité. La longévité. Pour une raison que je ne peux pas expliquer, au tennis féminin, Greg, tu le sais, les filles arrivent, ils explosent, sont là 3-4 ans, mais ils ne sont pas là 10 ans après. Alors, elle a réussi à tenir dans le temps. Même chose avec Simone Biles, qui a été extraordinaire sur plusieurs Olympiades. Fait que ce sont des athlètes qui, dans 25 ans, on va dire, waouh, ils ont vraiment marqué leur sport. Puis je te dirais deux situation ou événement, là, pour moi, qui ont été importants dans le premier quart de siècle, puis t'en es bien conscient, Paris sportif.
Ouais.
Ça, là, ça n'existait pas avant, là. Puis ça, c'est en train de changer la donne pour longtemps, là. Le Paris sportif, ça va amener des défis pour les ligues puis pour les sportifs. Puis l'autre chose, c'est l'argent saoudien. L'argent saoudien, là, je ne sais pas où, jusqu'où ça va aller. Là, ils ont commencé dans le golf, la boxe. Je ne sais pas où ça va aller. C'est tellement important, l'argent saoudien, je fais ça rapidement, que maintenant, la Ligue nationale de football a permis, depuis l'année passée, que des fonds d'investissement deviennent propriétaires minoritaires d'équipes de football. Ils se sont dit, nous autres, là, il va falloir qu'on protège nos équipes. Et c'est beaucoup issu de l'argent saoudien.
La discussion sur les paris sportifs est très intéressante parce que c'est vrai qu'on oublie que ça a fait l'arrivée dans les ligues majeures il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Et non. Ça a pris une place énorme et très rapide dans les médias et à travers les ligues aussi, dans les termes de commanditaires. Tu sais, la NFL qui mène le bal là-dedans allègrement et la Ligue nationale qui suit aussi. Tu sais, les grandes ligues majeures sont rendues là-dedans et c'est quelque chose qui va continuer d'avoir une présence encore plus grande dans le sport majeur mondial. Tu fais bien de le mentionner, pas juste les athlètes, mais aussi ces commanditaires-là. Tu parlais de l'argent saoudien. Il faut parler du sport professionnel féminin. Éric, tu pressé, toi, là?
Non, pas du tout.
Bon, tu restes avec nous autres?
Ben, avec plaisir.
Bon, on poursuit la discussion. On va parler du sport féminin parce qu'on aura Karel Aymar avec nous dans 45 minutes pendant une heure. On va mettre la table un peu là-dessus. Puis Éric nous avait préparé une question. Je vous dis, il va mettre le feu, là. Après ça, on va ouvrir les lignes parce que vous allez réagir sur la question qu'Éric va nous poser dans une couple de minutes. Et pour ceux qui posent la question sur la messagerie texte, non, je ne prends absolument pas personnel que Éric Auziel ne m'ait pas parlé de Lewis Hamilton.
Oui, mais oui, je suis content parce que je voulais... OK, continue.
Non, c'est tout. Je voulais juste lancer la conversation comme ça.
Je veux expliquer aux auditeurs que les critères que j'ai utilisés, puis je le dis, là, c'est avec beaucoup d'humilité, ce sont des critères. Qu'est-ce que tu as apporté à ton sport qui ne se faisait pas avant? Lewis Hamilton est un grand champion. Mais qu'est-ce qu'il a apporté que Schumacher ou Senna n'ont pas fait avant? Je te parlerai de, tu sais, je vais te parler de LeBron James. LeBron James a battu les records, plusieurs records, mais il n'a rien amené, tu comprends? On ne joue pas la game différemment. C'est juste que LeBron est unique, c'est un spécimen absolument extraordinaire. Il est peut-être le meilleur joueur de basket de tous les temps, mais Steph Curry, ce qu'il a amené, là, c'est ce que Ray Allen faisait avant, c'est ce que d'autres athlètes... Mais lui, il a amené à un autre niveau, le 3 points, ce qui fait en sorte que les Warriors ont dominé. Fait que je voulais amener... Tu sais, je pourrais te parler de Messi, je pourrais te parler de Tom Brady, qui en a gagné 7 Super Bowls, mais il n'a rien amené d'autre, tu comprends, que ce qu'on faisait avant. C'est juste qu'il était meilleur. Moi, je voulais avoir... Qu'est-ce que... Tiger, là, il a... Tu sais, Jack Nicklaus a 18 majeurs. Tiger, il en a 15. Mais Tiger a changé la façon qu'on regarde le golf. Tiger a changé la façon que les golfeurs s'entraînent. Donc, il a amené quelque chose de différent. C'était ça, mon critère à moi.
J'aime beaucoup ce critère et je pourrais répondre à ta question, mais je veux qu'on poursuive la discussion et le débat sur d'autres sujets. Puis, regarde, on peut continuer en fin de semaine, si tu veux. Ça va me faire plaisir.
Correct.
Non, puis écoute, ça se fait dans l'amitié, le respect, puis c'est le fun.
Ben oui, puis ce que je dis, là, c'est avec du... Ma liste, c'est pas la liste ultime, là. Ben c'est naturellement relié à mes champs d'intérêt aussi.
Il y a 872 personnes qui font des listes de repêchage à chaque année, là. Éric Auziel, il peut-tu sortir sa liste des sportifs qui ont marqué le premier quart de siècle? Ça va être correct, là. On commencera pas à se chicaner là-dessus.
Là, tant mieux si ça réagit, c'est ça qui est important.
Ben oui, effectivement. Et pour moi, dans le prochain 25 ans, ce qui va être excessivement intéressant à suivre, c'est l'arrivée des ligues professionnelles du sport féminin, la WNBA, la LPHF, les ligues de soccer également, professionnelles féminines qui sont en expansion. On l'a dit, là, de plus en plus, le prix des franchises qui continue de monter. Pour moi, ça va être excessivement intéressant à suivre.
Exact. Voilà. Donc ça, c'est dans ma liste des prochaines 25 années. On va parler, ça va commencer en 2018, 2019, 2020. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y avait deux pays qui se battaient pour la médaille d'or aux Olympiques, aux championnats du monde au hockey, les Américaines, les Canadiennes. Ça va changer. Maintenant, il y a une ligue professionnelle. La WNBA est de plus en plus populaire. Tu le dis, le soccer... Il y a la place qu'on fait pour le sport féminin. Ça sera plus seulement qu'on va regarder le volleyball de plage lors des Olympiques. parce que les filles ont des costumes de bain qui attirent un certain auditoire. Tu comprends? On est rendu ailleurs, là. Ça peut inclure ça aussi, mais ce que je dis, c'est que ça va être des athlètes qu'on va admirer pour leur prouesse sportive. Puis c'est extraordinaire. Donc, ça s'en va là, il faut le nommer. Puis tu sais, je t'aurais pu parler des trois grands au tennis, des Federer, des Nadal et des Djokovic, mais j'ai préféré te parler de Serena parce qu'elle a accompli quelque chose d'unique. Trouve-moi une fille dans le premier quart de siècle qui a duré aussi longtemps qu'elle, il n'y en a pas eu. T'sais, alors, il faut parler du sport féminin maintenant. Maintenant, il va falloir que les commanditaires amènent de l'argent aussi, comme au sport masculin, parce que ça va être ça qui va déterminer quelle va être la popularité. Il faut qu'il y ait des commanditaires, il faut qu'il y ait des filles, comme des Kathleen Clark, qui vont inspirer d'autres filles, puis des Marie-Philippe Poulin, qui vont inspirer parce qu'ils vont aussi avoir des valeurs qui vont faire en sorte qu'on va les mettre sur des piédestals.
Absolument, absolument. Éric, il nous reste 5 minutes ensemble. Tu as une question canadienne qu'on garde dans quelques instants, mais pour l'instant, tu veux nous raconter l'histoire fascinante du secondaire de ligne qui a été voté d'ailleurs au Pro Bowl des Ravens de Baltimore, Kyle Van Noy.
Oui, et puis ça n'a rien à voir parce que tu es un partisan des Ravens. Je suis tombé là-dessus dans le magazine The Athletic, puis ça m'a renversé parce qu'il y a 33 ans. Okay? C'est une ligue, la Ligue nationale de football, c'est tellement cruel. Tu n'es pas une vedette à 33 ans. Ça fait longtemps qu'on t'a remplacé par un plus jeune. Mais voilà un gars qui a persévéré, qui a été repêché 40e au total, qui était considéré au collège pour BYU comme un des meilleurs, sinon le meilleur secondaire extérieur pour être en poursuite de carrière, ce qu'on appelle en termes de football un pass rusher, un edge rusher. Donc, un poursuite de carrière dans un système 3-4. Il est repêché par les Lions de Détroit. Lions de Détroit de l'ancienne organisation. Pas Dan Campbell et Brad Holmes, l'ancienne organisation. Il est repêché et on le place à une position différente. On le place dans un système 4-3, donc 4 joueurs de ligne défensive, 3 joueurs de ligne de secondaire et il ne fait pas de poursuite de quart. On le garde 2-3 ans. Ce gars-là, Greg, a passé à travers une multitude de blessures très graves, hernie discale, côte fracturée, failli perdre un œil. Je te nomme pas toutes les blessures. Persévère à travers ça, est échangé, est coupé, s'en va aux Patriots, s'en va aux Dolphins, revient aux Patriots. Ce gars-là, là, à 31 ans, plus personne n'en voulait, supplie les Chargers de Los Angeles de l'engager, joue quelques matchs avec eux, est coupé, personne n'en veut. Et l'année passée, John Harbaugh, que t'aimes plus ou moins, dit ce gars-là, là, fait 3 games, nous autres, la saison est commencée, personne n'en veut. Ce gars-là, il a une passion pour le football. J'ai besoin de gars passionnés. Et le voilà qui arrive avec les Ravens l'année passée. 9 plaqués du corps. Cette année, 11 et demi, 33 ans. Il excelle. Ça, pour moi, c'est ça l'esprit sportif.
Il y a 11 sacs et demi, puis il a commencé la saison avec une fracture du visage.
L'orbite, au niveau. Il a failli perdre son œil.
Et il y a 11 sacs et demi. Ce gars-là est incroyable. Et tu fais bien d'en parler, puis merci de nous étaler cette histoire-là. Ça fait, c'est un des héros obscurs de cette saison.
Quand on est, et moi le premier, là, je lève la main, là, oh, moi le premier, quand on évalue, puis qu'on critique un athlète, puis qu'on dit, bon, il est pas bon, puis souvent on affirme trop vite, des fois il faut se dire, attends une minute, est-il dans le bon encadrement? Est-il à la bonne place? Est-ce qu'on est trop sévère? Ça prend du temps. Là, 33 ans, c'est un extrême, on s'entend là. Puis c'est un gars qui, comme il dit, c'est la première fois de ma carrière qu'on me met exactement où je dois être, dans un système 3-4 à l'extérieur. Bon, puis il est très bon, mais il y a un concours de circonstances. Tu sais, je te rappellerai, quand il était avec les Dolphins, c'était Brian Flores qui était le coordonnateur défensif des Patriots. Il l'a amené à Miami quand il était en chef. Ils ont donné un contrat de 51 millions pour quelques années. Ils l'ont coupé la première année. Dans son cas, lui, il n'y a pas de contrat garanti. Donc, il a perdu le reste de l'argent. Fait que, tu sais, et ça prend du temps et je vais faire un parallèle avec les Canadiens de Montréal qui présentement est excellent, mais comment on les critiquait au début puis l'année passée, des fois, pas tout le temps, mais des fois là, on est impatient parce qu'on est émotif et c'est correct. Et des fois on a raison, puis des fois ben, puis là je veux pas donner de l'eau au moulin des gens qui prônent les reconstructions qui prennent 7 et 8 ans, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que je disais au début d'année. On a une meilleure équipe que ce qu'on voyait. On n'a pas la pire équipe de l'Est. et on est meilleur que plusieurs des équipes. Et Martin Saint-Louis, là, malgré le fait qu'on pouvait le critiquer, il a passé à travers ce qu'on dit, là, il faut qu'il pleuve avant qu'on voie l'arc-en-ciel. Ben voilà, là, on arrive à l'arc-en-ciel. On commence à voir les résultats d'un vrai coach de hockey, mais il a fallu qu'il passe par un chemin où il faisait des erreurs, des fois des erreurs qu'on voyait, des fois des erreurs qu'on voyait pas. Mais là, il a appris. Et là, moi, je pense que c'est lui qui sort grandi de la belle séquence du Canadien de Montréal. Donc, je voulais faire un parallèle entre Carl Vigneault, qui ça a pris du temps, puis ce qui arrive avec le Canadien de Montréal présent.
J'aime le parallèle, mais tu avais une question là-dessus, puis c'est toi qui mets la table à notre ligne ouverte au retour de la pause. Tu posais la question. Vas-y donc, Éric, je veux pas te voler ton punch.
J'en ai plusieurs questions. Tu parles-tu d'Ovechkin?
Non, je parle de l'entraîneur-chef, finalement, là.
Ouais, ma question. OK, je vais en poser la question. J'ai eu un débat. C'est pas moi, là. Je veux pas mettre la lumière sur moi, pas du tout. Mais plusieurs disaient, « Hey, Jim Montgomery, il est disponible. Faut l'amener, Canadien. Il est meilleur que Martin Saint-Louis. Jim Montgomery a gagné l'entraîneur de l'année. Jim Montgomery, pardon, avec les Bruins. » Et moi, je disais, « Non, attends, là. Le pire est passé. Martin, là, c'est un homme de hockey. C'est un passionné de hockey. Faut lui faire confiance. Oui, c'est pas concluant maintenant. » Là, puis je te dis pas que les Canadiens, je sais pas ce qui va se passer avec ce qui s'en vient, là. Mais ce que je te dis, c'est que Martin Saint-Louis est maintenant un coach de hockey aussi crédible que plusieurs gars qui ont plus d'expérience que lui, parce que là, il a passé à travers le désert. C'est ça ma question. Est-ce qu'on remplacerait Martin Saint-Louis au moment où on se parle par Jim Montgomery?
Éric Auziel, tu viens de mettre le feu dans le barbecue du tailgate des fêtes. J'ai déjà hâte de te reparler demain, mon ami. On prend ça à 10h en ouverture d'émission dès demain samedi.
Bonne journée à toi, aux auditeurs, puis à Olivier. On se parle demain à 10h. Bye bye.
Salut, mon chum. Incroyable.